Le journal présenté par Maxime Fayol.
Bonjour à tous. C'est le jour d'après à Baghouz, après la chute du territoire du groupe État islamique. Nous nous intéresserons au sort des Kurdes qui veulent désormais discuter avec la Syrie et qui craignent de voir la Turquie se mobiliser contre eux. Nous irons au Mali où un village Peul a été attaqué hier, faisant plus de 130 morts. Les violences communautaires minent le pays alors que l'ONU était en visite hier. Et la visite du président chinois en France, Xi Jinping doit atterrir à Nice avant de se rendre à Monaco et de rencontrer Emmanuel Macron, le dirigeant chinois qui cherche des alliés en Europe dans une période un peu délicate pour lui. L'offensive aura donc duré 3 mois, mais le dernier réduit de Baghouz est finalement tombé. Dernier bastion tenu par les djihadistes de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie. Une victoire qui était attendue depuis plusieurs semaines. Aurélien Colli, vous l'avez constaté il y a quelques jours lorsque vous avez pu vous rendre à Baghouz avec les forces arabo-kurdes.
Avant même l'annonce officielle, ils célébraient leur victoire sur Daesh. Une cinquantaine de combattants arabes revenant du front de Baghouz, parmi eux Shahin, 39 ans. Daesh, c'était vraiment horrible. La police religieuse te frappait si tu ne faisais pas la prière. Beaucoup de gens sont morts pour rien à cause d'eux, raconte cet ancien chauffeur de taxi qui a rejoint les forces démocratiques syriennes quand elles ont libéré sa ville, Karama, juste à côté de Raqqa. La politique de Daesh est contraire à l'islam. Ils ont brouillé l'image de notre religion qui repose sur l'amitié, poursuit l'homme, en comparant l'État islamique à une maladie pour l'humanité, un virus qui aurait utilisé l'islam pour la contaminer. Daesh vaincu, Shahin veut juste retrouver une vie simple, voir les gens vivre tranquillement, les enfants jouer paisiblement. Autre ambition en revanche pour Ahmed, 23 ans. Lui ne reposera pas les armes prises dès 2014. Torse bombé, Kalachnikov fièrement brandi. Il revient sur sa plus dure bataille, la libération de Raqqa en 2017. C'était difficile pour tous, mais pas pour moi, parce que mon cœur est vide depuis que Daesh a tué mes 5 frères et que je suis tout seul, lâche le jeune homme au regard bleu perçant. C'est pour mon pays, c'est pour moi, c'est pour eux que j'ai pris ma revanche, ajoute-t-il, en expliquant que son avenir sera au sein des forces démocratiques syriennes pour suivre un entraînement et devenir commandant.
Aurélien Colli, et cette victoire, elle pose donc beaucoup de questions pour le sort de ces Kurdes. Fer de lance des FDS, ils demandent l'établissement d'un dialogue avec Bachar el-Assad et ils veulent régler les questions des territoires contrôlés dans le nord et l'est du pays. Les Kurdes qui veulent une action rapide car la Turquie voisine se fait de plus en plus menaçante à Nandlower.
Lorsque le président américain Donald Trump a annoncé quelques heures avant les forces kurdes la victoire de la coalition contre le califat proclamé par Daesh en Syrie, la réaction de son homologue turc n'a étonné personne. « Finissons-en avec le PKK et le PYD comme nous en avons fini avec Daesh », a lancé Recep Tayyip Erdogan dans un meeting électoral. Le président turc faisait référence aux combattants kurdes qui, après leur victoire militaire sur le groupe État islamique, entendent désormais remporter une victoire politique en pérennisant l'autonomie de fait qu'ils ont acquise dans les régions arrachées à Daesh ces dernières années. Mais pour Recep Tayyip Erdogan, il est hors de question que ces Kurdes, considérés comme terroristes parce qu'ils sont liés au PKK en guerre contre la Turquie, s'installent durablement sur des territoires situés le long de sa frontière. Il ne s'agit pas de paroles en l'air. Début 2018, l'armée turque est entrée en Syrie dans la région d'Afrin, alors tenue par les forces kurdes. Depuis, Recep Tayyip Erdogan n'attend que le retrait des soldats américains de Syrie pour attaquer Manbij, une autre région plus à l'est. Dans le même temps, la Turquie fait tout, et avec succès jusqu'ici, pour que ces Kurdes soient exclus des négociations politiques sur l'avenir de la Syrie. Elle fait pression sur les États-Unis, mais aussi sur la Russie de Vladimir Poutine, avec lequel Tayyip Erdogan s'est beaucoup rapproché à la faveur justement du conflit en Syrie. Quant à Bachar el-Assad, après des années de rupture, le président turc a reconnu pour la première fois le mois dernier des contacts de bas niveau avec le régime de Damas. Nul doute que si la question kurde est en jeu, le leader turc pourrait intensifier ses contacts dans la période à venir.
À Nandlower. Au Mali maintenant, les violences communautaires ensanglantent le pays depuis de nombreux mois désormais. Hier, au moins 134 personnes ont été tuées dans le centre du pays. Des habitants d'un village Peul attaqués par des hommes habillés en chasseurs. Une tuerie alors que l'ONU est en visite sur place, Marie Matigo.
Des femmes enceintes, des enfants et des vieillards ont été assassinés. Sur les photos prises après le massacre, on voit de nombreux corps calcinés. C'est la pire tuerie qu'a connue le centre du Mali. Le village d'Ogassougoupel a été en grande partie détruit, des centaines de cases et de greniers ont été incendiés et des dizaines de têtes de bétail tuées. Alors, qui sont les assaillants? Selon des témoins, ce sont des centaines d'hommes lourdement armés et habillés avec des tenues de chasseurs traditionnelles. Les yeux se tournent donc vers la milice de chasseurs Dogon d'Anambasagou qui a rompu le cessez-le-feu dans un communiqué il y a 3 jours. Elle a affirmé reprendre ses patrouilles dans le centre car les attaques s'y poursuivent, notamment contre les civils Dogon. Mais d'Anambasagou rejette toute responsabilité dans cette attaque qui a visé des peuls. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans le centre du Mali, où l'État est peu présent et où les armes prolifèrent, les attaques sont quasi quotidiennes, menées par des groupes d'autodéfense ou par des groupes djihadistes. La communauté Peul, notamment, souffre d'amalgame et est accusée de soutenir les groupes djihadistes à cause du leader terroriste Amadou Koufa, un Peul. Les civils, qu'ils soient Peul ou Dogon, sont les premières victimes de ce cercle vicieux des représailles. Selon les Nations Unies, les violences intercommunautaires ont fait plus de 500 morts en 2018 et des dizaines de milliers de déplacés. Et ces chiffres risquent d'être encore plus élevés en 2019.
Marie Matigo, je vous rappelle donc ce bilan encore provisoire de 134 morts au Mali dans ces violences. Bilan également provisoire au Mozambique et au Zimbabwe après le passage du cyclone Idai. Il grimpe ce matin à 676 morts, mais de nombreuses zones sont encore inaccessibles. Les secours sur place redoutent maintenant la propagation de maladies aux survivants. Le président chinois Xi Jinping arrive en France aujourd'hui après un passage en Italie pour signer un nouveau protocole sur son projet de nouvelle route de la soie. Le dirigeant chinois doit se rendre à Monaco avant de dîner avec le couple Macron près de Nice. L'occasion de célébrer le 55e anniversaire des relations franco-chinoises, des relations qui ont évolué au fil des années, plus critiques aujourd'hui que par le passé. Cela n'empêche pas le dirigeant chinois, écorné dans plusieurs dossiers internes, de chercher du soutien en France, Dominique André.
Une guerre commerciale sino-américaine qui dure, de mauvaises relations avec Washington, un ralentissement de la croissance économique en Chine, la situation au Xinjiang ont dégradé l'image de Xi Jinping. La signature de l'Italie avec les routes de la soie est importante pour sa réputation en Chine, où Xi Jinping est critiqué, y compris dans son parti. À l'international, le président chinois a besoin de soutien, en particulier à Bruxelles. Or, l'Europe, pour Xi Jinping, c'est d'abord Emmanuel Macron, souligne Philippe Lecor, chercheur à l'université de Harvard.
Je crois qu'effectivement, Xi Jinping, sur le plan international, souffre d'un déficit d'image. Il est clair que Xi Jinping a en ce moment une difficulté avec les États-Unis et donc la Chine a besoin de trouver des amis.
Qu'est-ce que Xi Jinping attend d'Emmanuel Macron ?
Il attend un peu de réconfort et un peu de leadership de la part du président du G7, d'un membre clé de l'Union européenne. Puis Emmanuel Macron est un des rares leaders qui a été élu pour 5 ans, qui peut servir d'interlocuteur à Xi Jinping. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'alternatives.
Le président chinois essaiera sans doute de rassurer durant sa visite en France, mais il semble clair que désormais, de simples déclarations de Xi Jinping ne suffiront pas à dissiper les inquiétudes.
Dominique André, une visite que Xi Jinping en France, que les Gilets jaunes veulent tenter de perturber. De nouvelles mobilisations sont attendues. Elles ont déjà dégénéré hier dans la ville. Environ 80 interpellations, au moins une personne blessée à la tête après des affrontements avec les forces de l'ordre. Son avocat annonce ce matin vouloir déposer plainte. La conférence citoyenne pour les 18-25 ans, elle, a pris fin hier, c'était près d'Aix-en-Provence. 95 jeunes tirés au sort, ils ont pu discuter de solutions concrètes, Anne Fauquemberg, autant qu'ils ont pu toucher du doigt une nouvelle expérience de la démocratie.
Créer un cours dédié à l'écologie dans la scolarité, généraliser les bus itinérants des services publics dans les zones rurales ou encore rééquilibrer l'impôt entre les PME et les grandes entreprises. Quelques exemples de ce qui est ressorti hier soir à l'issue de cette conférence. Une expérience enrichissante pour Walid, étudiant à Lyon.
On m'a demandé mon avis, on m'a demandé qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce qui ne va pas et on m'a demandé de proposer quelque chose de nouveau. Mon sentiment de citoyen est plus renforcé.
Plusieurs d'entre eux disent en effet fait ne pas voter et certains étaient même sceptiques au départ. Mais Alix, originaire de La Roche-sur-Yon, a changé d'avis.
Tout notre débat se fait en toute transparence. On a la liberté en fait de dire tout ce qui va pas et tout ce qui va bien. Donc c'est ça qui est bien.
Mais attention, message au gouvernement, pas question de prendre les plus jeunes à la légère. David a déjà préparé une tribune pour mettre la pression aux autorités.
Au début, il écrit « Nous sommes jeunes, nous venons de telle région, de telle ville. Nous sommes tous différents, nous avons des opinions différentes. Mais aujourd'hui, nous rassemblons et nous sommes d'accord pour dire voilà, écoutez-nous, parce qu'on a trouvé consensus, c'était compliqué, on a pris du temps sur nous, on a pris du temps pour le débat public, donc maintenant on veut que ce temps en fait soit valorisé.
95 jeunes tirés au sort qui veulent compter dans le grand débat, et ils ont beau faire partie de la génération Z, pour Zapper, ils ont épaté les organisateurs par leur concentration et leur argumentation.
Anne Fauquemberg, le temps de ce dimanche, c'est une France coupée en deux, nuageux au nord et ensoleillé au sud, les températures aussi ce matin entre 1 et 8 degrés en moyenne.